Luc Delis, vous publiez votre dernier recueil de poèmes en date aux éditions Le Cormier, Ciel ouvert. Alors, il est toujours difficile de faire parler un poète de ce qu'il a écrit, dans la mesure où chaque lecteur réécrit le poème et finalement entre de manière intime, je dirais, dans l'univers de celui qui l'a écrit. Alors, si vous voulez bien, ma première question portera sur la chronologie. Le dernier recueil que vous ayez publié date de 2002 et celui-ci est publié en 2012. Est-ce que cela veut dire que pendant ces 10 ans, où chaque année a été marquée par la publication d'un roman ou d'un essai, est-ce que ça veut dire que pendant ces 10 ans, vous avez interrompu votre vie poétique ?
Ma vie poétique, je ne sais pas si je peux l'interrompre, parce qu'elle est un avatar de ma vie organique. Mais s'il s'agit d'écrire des poèmes, ben c'est clair que jusqu'entre 2001, parce qu'un livre part en 2002, mais souvent il est fini avant, et mettons 2010... Ça s'est tu. Je suis capable de produire le besoin, la résonance qui va permettre d'écrire un livre, un roman, un essai, mais disons un roman. Il y a une part de magie, mais disons elle est contrôlable. Sur la poésie, je peux me rendre compte que quand j'essaie d'écrire un poème, en étant inspiré verbalement, mais quand il n'y a pas autre chose, quoi on va essayer de dire, ben ça ne vient pas. Ça, c'est absent, c'est au Styx. Donc, ben, 2002, 2003, 2004, parfois je pensais à la poésie comme à quelqu'un qu'on a bien connu et puis il est parti, ou une femme qu'on a bien aimée, et puis elle est partie ou elle est morte. Et avec regret, et avec une sorte de détestation de moi, du moi ancien, ce salopard avait la poésie, moi je ne l'ai pas. Et puis, en 2010, comme ça. Enfin, comme ça, c'est jamais comme ça, il y a autre chose. Mais c'est revenu. Et là, tous les jours, tout le temps, c'est-à-dire, parfois je les écrivais, parfois ça sortait, mais je le gaspillais, je laissais partir, c'était écœurant, c'était trop à la fois, c'était des trésors partout, tout ça. Mais voilà, 50 fois, la salve, quoi, la salve salvatrice. Et puis, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais ça s'arrête quand même à un moment donné, parce qu'on croit qu'on a trouvé l'île au trésor ou la jouvence éternelle, invincible, inaltérable, inépuisable. Et puis, du coup, on gaspille, et puis on arrête exprès. Hein, et puis, après, c'est parti, ça reviendra. S'il faut attendre 10 ans, ça veut dire qu'en espérant vivre 80 ans, j'ai plus que 3 recueils devant moi. On verra, peut-être plus, peut-être moins. D'autre part, ben, le sujet de ces poèmes, même pour quelqu'un qui serait un peu mobilisé par le caractère parfois très allusif ou très abstrait ou très obscur, plutôt obscur qu'abstrait d'ailleurs, de ces poèmes, je crois qu'il ne pourrait pas ne pas remarquer que tous ces poèmes parlent de quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. Que tous ces poèmes évoquent une femme, disent la beauté, disent la chaleur, disent le plaisir, disent la peur, disent le rêve. Et donc, ce sont des poèmes de passion. Je ne veux pas faire de confidence qui d'ailleurs n'intéresse personne, mais c'est des poèmes de passion, et donc il y a une relation entre la passion, au sens de passion amoureuse, et l'écriture. Je ne la connaissais pas. Je la connaissais plutôt comme raccord littéraire. Mais là, c'est une source vive directe. Comme il y a un rapport entre le feu et la brûlure, il y a un rapport entre la passion et la poésie, en tout cas ces poèmes-là. Ils sont les moins rhétoriques qui soient, ils sont uniquement... Ils disent le cri, la fougue, la foudre, la douleur, le bonheur, la peur, la perte, tout le temps.
C'est vrai, les ayant lus, je peux confirmer qu'ils ne sont pas, au contraire de ce que vous dites, ils ne sont pas du tout obscurs. Ils sont charnels. Ils sont. Vous disiez que la poésie était une dictée musicale qui jaillissait comme de l'électricité. Et c'est d'une certaine manière ce qu'on ressent, à la fois la musique, à la fois la brûlure et à la fois une sorte de lyrisme. Alors, je vais prendre un vers, un exemple. Lorsque vous parlez ici, le poème s'appelle Mastaba, L'image que je vois, c'est celle d'un chat, mais ça peut être aussi celle d'une femme. Pharaon à quatre pattes sur la moquette dans le cartouche clair de la sieste. Il y a à la fois la chaleur, la sensualité, il y a le mouvement, il y a une sorte de magie, de lumière dans deux vers qui terminent ce poème Mastaba. Alors je vais citer un autre vers qui m'avait frappé, et c'est là aussi la difficulté de l'interview. Qu'est-ce qu'on dirait à un poète lorsqu'on le rencontre, si ce n'est lire un de ses textes? Alors le poème que je voulais lire s'intitule « Un seul jour » et il illustre très bien ce que vous venez de dire. « Un seul jour sans la voir et la saveur du jour devient acide et la main devient non-main. Un seul jour sans sa voix qui descendait au cœur des choses et les choses se taisent et mon cœur ne bat plus. » Alors un poème comme celui-là, racontez-nous sa genèse. Comment vient-il sous la plume ?
Je ne sais pas. Mais si on imagine, mettons que ce que je vous dis, c'est une fable, hein, si on imagine qu'il y a quelqu'un derrière ça, hein, et que ce quelqu'un a tort raison, vous pensez que c'est votre vie, hein, un seul jour sans la voir, c'est dur. Donc peut-être que j'aurais tendance à dire que si ce sont vraiment des poèmes de passion, eh ben, il vient un moment où la parole sort, parce que même le bonheur est souffrance. Voilà.
Lorsque la construction du recueil, il y a une cinquantaine de poèmes,
il y a 50,
vous les avez partagés en quatre parties, avec un prologue qui, à mon avis, fait partie du poème aussi, où finalement vous racontez pourquoi le poème est revenu en vous. Comment c'est organisé à un moment donné?
Le classement en quatre parties, ça correspond plutôt à quatre périodes. En gros, ils sont pas tout à fait dans l'ordre chronologique, mais chaque partie correspond à un autre moment, entre, si je me souviens bien, entre février et décembre 2010. Donc, mettons qu'il y a eu 6 semaines, et puis ça s'est tué pendant 2 mois. Et puis donc, chaque fois, il y avait quelque chose, une espèce d'unité secrète qui se refermait, même si ça se poursuivait sur autre chose. Hein. Et je savais que c'était toujours le même flux, mais n'empêche, comme il y avait eu un atterrissage, je repartais ailleurs. Hein. On passe parfois de elle à tu, des choses comme ça. Enfin, il y a des petites choses comme ça. À l'intérieur de ces parties, l'ordre des poèmes, c'est un montage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément été écrits dans cet ordre chronologique-là, mais parfois, il y avait des ricochements que je cherchais ou qui n'étaient pas souhaitables, au contraire, entre la fin le dernier vers d'un poème et le premier vers du suivant. Donc, on déplaçait des choses pour qu'après, on puisse lire chaque poème. Et puis, sur le dernier vers, comme sur un trampoline, sauter 3 fois en l'air et retomber sur le trampoline suivant. Et voilà, donc il y a un effet montage qui cherche à trouver une sorte d'équilibre un peu musical comme ça, étant donné que la particularité d'un poème ou de 50 poèmes écrits en 10 mois, c'est qu'ils font partie de la même chose, du même corps, de la même réalité, de la même inspiration, du même souffle, et quand même il y a des cessations, il y a des creux, il y a la marée haute et la marée basse. Donc mettons que ces quatre parties, ça veut dire marée haute, marée basse, marée haute, marée basse, et puis on démonte.
Alors je voudrais qu'on lise un autre poème qui s'intitule Gorgone, où là, et c'est une formule, enfin c'est une sorte de un objet qui revient à plusieurs reprises dans le recueil, c'est le téléphone. Oui. Alors je lis la Gorgone. Le ciel fouetté dans un verre de vin bleu, les compteurs du sommeil qui cognent contre le bord, le piège amoureux sous la douche, la grimace de la ciguë, la nuque cassée en arrière de la Gorgone, le fleuve noir du téléphone, le ciel comme une grimace rapide dans un spasme du temps. Alors, comment vient cette formulation, le fleuve noir du téléphone? Parce qu'on voit tout dans cette formulation-là, mais on voit plutôt quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la jubilation, qui est plutôt dans l'ordre du deuil. Dans l'ordre...
Il y a une sorte d'angoisse, évidemment, et cette angoisse est curieuse, parce qu'ils n'ont pas tous été écrits dans l'angoisse, mais parfois dans la joie, mais c'est l'angoisse qui se renage, enfin qui sort comme la vapeur de cette fumée, de ce feu de sacrifice, juste pour le téléphone. Ce qui est drôle, c'est que D'une certaine manière, ces poèmes sont hantés, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est même pas une passion, ils sont hantés par l'Antiquité. Il y a les allusions à l'Égypte ancienne, le mastaba ou la gorgone dans un autre registre. Il y a pas mal de systèmes qui naissent d'un certain rapport imaginaire, comme si l'Antiquité, c'était aujourd'hui. Le fleuve, la source, la femme, le corps, le vêtement, tout ça pourrait avoir été écrit, enfin, toute proportion gardée, en latin, il y a 2000 ans. Mais il y a quelque chose en plus, parce que c'est cet objet qui, pour moi, est l'objet surprenant, notamment des relations amoureuses. C'est ce téléphone ou cet iPhone ou ce smartphone qui, maintenant, ne quitte plus. Vous savez, il y a 30 ans, quand j'ai commencé ma carrière amoureuse, peut-être même un peu plus, la première chose que faisaient deux amants quand ils s'enfermaient dans une chambre, ils tiraient la fiche de téléphone. Et maintenant, non seulement ils ne la tirent plus, d'ailleurs, il n'y a plus de fiche de téléphone, mais les iPhones restent branchés sous les tables de chevet. Et je me souviens d'avoir vu, je ne vous dirai pas quand, ni qui, ni avec quoi, une femme s'arrachant à l'étreinte, se tordant, disant, juste pour voir qui c'est, et quittant l'étreinte de l'amant pour regarder qui appelle sur l'iPhone. Et donc, le fleuve noir du téléphone, c'est aussi dans la chambre enfermée des amants. Je ne dis pas que c'est à ça que je pensais quand j'écris, je ne m'en souviens plus. Il n'y a plus que l'essentiel, il n'y a plus que les corps, le désir, les pièces fermées, les persiennes, etc. Mais il y a le téléphone et le fleuve noir du monde entre dans la chambre fermée.
Alors je vous demanderai cette fois-ci de lire ce poème qui est Contrepoison, où réapparaît le téléphone absent, le café dans la tasse, les heures claires de la nuit. Alors c'est Contrepoison, et je propose qu'on termine cet entretien par votre lecture de ce poème, et éventuellement d'un autre s'il y en a un que vous avez envie de lire.
D'accord, Contrepoison. Je suis avec toi dans le temps, enroulé dans nos couvertures, tu dors loin de moi et j'attends. Les longs doigts de la ville endormie redessinent tes yeux fermés, je suis dans la cité du rêve. La montre bleue, l'écran noir, le téléphone absent, le café dans la tasse, les heures claires de la nuit. Plein de choses me manquent, mais toi tu ne manques pas, tu me troues. Je sens le fruit de la douleur s'ouvrir en deux, entre tes paumes, le suc délicieux et vivant coule sous ton poignet de velours. Petite vasque où je bois à genoux, tu es glacée et ta salive lente pénètre les réseaux et les cordes de mon corps nu vibrant. Tous les bonheurs de la lumière sont venus par le filtre de ton regard. Ton rire vit en moi, ta peau mate avec le pinceau du matin et ma lampe.
Voilà, Luc Delis, c'est sur la lecture de ce poème qui me semble rend bien l'esprit.
Je ne connais rien de plus ridicule. Ça enregistre encore.
Absolument.
Je ne connais rien de plus ridicule qu'un auteur qui est ému en lisant de ses propres textes, mais en me souvenant de ce qui était en jeu dans mon âme quand j'écrivais ça. D'une certaine manière, je ne dis pas que je suis ému, je n'ai pas les larmes aux yeux, mais quelque chose de l'ordre du souffle coupé est encore là.
C'est peut-être ce que vous exprimiez aussi dans le prologue qui, selon moi, fait partie aussi du livre. Vous disiez que vous parliez de votre néant sans la poésie.
Ouais, bah oui, sans la poésie, le néant, rien, rien.
Luc Delis, je vous remercie. Merci. Je rappelle le titre du recueil de poèmes, Ciel ouvert, paru aux éditions Le Cormier. Luc Delis, je vous remercie.
Merci, Jean.